l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
La vigilance concernant la Covid-19 reste forte en Occitanie. Les derniers indicateurs épidémiques affichent une relative stabilisation de la situation selon l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Et on va faire le point aujourd'hui avec le docteur Alain Perret, le chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors quelle est la situation actuelle au centre hospitalier de Narbonne ?
On est stable dans la médiocrité, hein, c'est-à-dire qu'on avait, on a eu ce pic fulgurant de mi-juillet à début mi-août, là, et puis aujourd'hui on n'est plus en augmentation, mais effectivement on a une stabilité sur des niveaux d'hospitalisation relativement élevés, hein, puisqu'on est à 2 ou 3 hospitalisations par jour, ce qui est beaucoup, hein, ça paraît un chiffre absolu, ça paraît pas énorme, mais c'est beaucoup parce que quand vous êtes hospitalisé pour une raison de Covid, c'est-à-dire que vous êtes oxygéno-nécessitant, vous avez besoin d'être sous oxygène, et ces hospitalisations qui durent un minimum une dizaine de jours, voire 3 semaines pour les cas les plus graves qui vont en réanimation. Donc ça perpétue une forme d'embolisation de l'hôpital. Et il y a aujourd'hui, le bloc opératoire est fermé, réouvert partiellement mercredi, on a réouvert une salle, mais ça veut dire qu'on opère que les urgences sur l'hôpital parce que l'activité du Covid nous embolise complètement et on a besoin de réorienter les personnels pour pouvoir s'occuper du Covid parce que dans un service Covid, il faut plus de personnel. C'est l'intensité du travail et la difficulté du travail pour les infirmiers notamment, les aides-soignants, enfin tous les soignants. Et c'est un service où c'est beaucoup plus intense, il y a beaucoup de soins à faire, donc on est obligé d'augmenter le nombre d'infirmiers par service. Et aujourd'hui, le service Covid, le terme n'est pas très joli, mais le service Covid consomme beaucoup de personnel et dans des conditions de travail qui sont difficiles.
Et en termes toujours de personnes touchées par le Covid, combien y en a-t-il en réanimation ?
Alors aujourd'hui, on a 9 patients en réanimation, 6 en réanimation intubée ventilée et 3 en soins continus. Donc on a 9 patients, ce qui est à peu près stable, mais on a pas mal transféré, hein, avec l'aide du SAMU 31, puisque depuis le début de l'épidémie, on a transféré presque une dizaine de patients sur Tarbes, sur Alès, sur Nîmes, beaucoup, voire même il y a un patient qui est parti à Amiens il y a quelques jours, avec l'aide du SAMU 31 pour la logistique, qui nous a beaucoup aidé, hein, parce qu'on était en difficulté pour assumer ces transferts médicalisés. Voilà, donc on est stable autour de 9 patients, mais on est vraiment sur la corde raide parce qu'on a un service on est passé de 8 à 12 lits, hein, là c'est pareil, hein, c'est 50% d'augmentation du nombre de lits. On est quand même sur la corde raide. Alors effectivement, il n'y a plus d'augmentation, on a l'impression qu'on a passé le pic, mais on reste sur un plateau qui est relativement élevé et qui nous pose de grandes difficultés.
Est-ce que vous estimez que cette vague est plus virulente que les précédentes ?
Alors en termes de virulence, elle est surtout beaucoup plus brutale, ça a été très rapide. Alors ça rappelle un petit peu la toute première vague, hein, mars 2020, là où ça a été très rapide aussi. À la différence, c'est que il y a déjà beaucoup de gens vaccinés, donc je rappelle quand même que 100% des patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés et que 90% des patients hospitalisés en médecine ne sont pas vaccinés. Donc je pense que ça nous a épargné quand même une vraie catastrophe. Hein. Là, on est dans la difficulté, mais on n'est pas complètement submergé, mais ça a été assez brutal. La différence, c'est que les gens sont beaucoup plus jeunes. Hein. On a une moyenne d'âge qui est autour de 50-60 ans, pour une moyenne d'âge de 80 ans sur les premières vagues. Alors, il y a une mortalité qui est moindre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que fatalement, vous êtes un peu plus résistant à 50 ans qu'à 80 ans, malheureusement. Et donc, on a effectivement, malgré le grand nombre d'hospitalisations, on peut témoigner d'assez peu de décès depuis le début de cette quatrième vague.
Justement, en parlant de vaccination, la Haute Autorité de Santé a validé la troisième dose. Ce rappel concerne notamment les plus de 65 ans et les personnes à risque pour les vaccins à ARN messager. Justement, à quoi va servir cette nouvelle dose dans les prochains mois ?
Bah écoutez, il semblerait que le vaccin perde un petit peu d'efficacité au bout de quelques mois. Alors, c'est pas non plus une surprise. Hein. Par exemple, sur les schémas de vaccination du tétanos, il y a une injection au premier, deuxième mois et puis une à 6 mois. Donc il y a déjà des vaccins qui ont besoin d'un rappel. Après, je pense que c'est pas le sujet absolu. Il y avait déjà une troisième dose pour les gens qui étaient en immunosuppression ou qui avaient des maladies chroniques difficiles, hein, notamment les gens sous dialyse par exemple, qui avaient besoin d'une troisième injection. Je pense que le sujet, c'est vraiment les deux premières injections. Hein. On a vraiment besoin qu'il y ait plus de gens vaccinés. On arrive un petit peu sur la difficulté. Hein. Il y a eu les gens qui se sont vaccinés, qui ont fait la queue pour se vacciner en tout début. Il y a les gens qui étaient un poil réticents, qui ont attendu un petit peu, mais qui se sont fait vacciner. Après, il y a les gens qu'il a fallu convaincre. Il y a des gens qui sont allés un petit peu contraints et forcés avec les directives gouvernementales. Et là, je pense qu'on atteint un pourcentage, alors qu'il faudrait définir, hein, on va dire de 10-15% de gens qui sont complètement réfractaires à la vaccination. Pour des raisons qui me paraissent obscures, mais bon, qui ont certainement leur propre logique. Je pense que ces gens-là, c'est eux qu'il faudrait atteindre avec le discours, essayer d'aller les convaincre, essayer de les persuader de se vacciner. Donc moi, je reste quand même un grand partisan des deux premières injections. Je pense qu'à partir du moment où vous avez fait les deux premières injections, l'orientation à la troisième, suivant vos facteurs de risque, se fera naturellement, quoi.
Docteur Alain Perret, selon un syndicat, l'obligation vaccinale des personnels de santé à compter du 15 septembre mettra en péril le fonctionnement des établissements de santé. Les syndicats annoncent notamment une crise fonctionnelle avec des problèmes d'effectifs. Quel est votre point de vue là-dessus ?
Disons qu'on sait que les hôpitaux sont déjà sur le fil du rasoir en termes de recrutement, hein, que ce soit pour les médecins ou les infirmiers, enfin pour les tout types de personnel soignant. Donc c'est vrai qu'il suffit d'un très petit nombre de personnel absent ou qui refusent la vaccination, donc qui ne pourront pas travailler, pour mettre en péril certaines activités, quoi. Donc pour l'instant, on a du mal à avoir une idée assez précise du taux de gens vaccinés. Il est très variable d'un service à l'autre. Aux urgences, quasiment tout le monde est vacciné, pour ce que j'en sais. Mais bon, c'est encore couvert par le secret médical. Hein. Vous ne pouvez pas aller voir les dossiers des gens pour savoir s'ils sont vaccinés ou pas. Donc on est sur du déclaratif. Hein. Si les personnes veulent bien vous le dire, elles vous le disent si elles sont vaccinées ou pas. Là encore, je répète la nécessité de la pédagogie et de la persuasion. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut effectivement arriver à convaincre les gens que la vaccination n'est que de la vaccination. Et qu'elle n'est pas chargée de tout un tas de significations politiques ou sociales telles que il y a des personnes qui mettent des raisonnements qui sont politiques ou sociaux, ce qui à mon avis est une erreur. Hein. Je pense qu'il ne faut pas attribuer par exemple le fait de se vacciner à un soutien pro-gouvernemental pour les gens qui sont sur ce registre-là. Je pense que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est aussi notre travail d'arriver à détricoter les problématiques sociales, les problématiques politiques, des problématiques médicales. Voilà, moi j'ai eu un discours qui est toujours resté sur le plan médical. Je pense que c'est important de se vacciner, ça n'a pas de signification politique. Hein. Je pense que quel que soit le type de gouvernement, et on le voit à travers le monde, hein, puisque la vaccination, c'est pas une problématique franco-française, c'est une problématique mondiale. Mmh. Vous parlez de troisième dose. La troisième dose peut donner le risque qu'on prive certains pays émergents de doses de vaccins qui leur sont nécessaires. Donc voilà, ça, c'est aussi il faut avoir une vision mondiale de cette épidémie. Et la vaccination, c'est une réponse qui sera mondiale, parce qu'on ne pourra pas laisser personne sur le côté. À partir du moment où on laissera des gens non vaccinés, il y aura un réservoir d'agressivité du virus. Donc, pour revenir à votre question initiale, effectivement, il y a un risque, c'est qu'il y a un tout petit nombre de soignants qui ne se vaccinent pas pour X raisons, et notamment pour des raisons qui peuvent être politiques. Hein. Bon, ça peut effectivement mettre certaines activités de l'hôpital en danger. Après, j'espère que tout le monde saura raison garder et reviendra sur le chemin de la vaccination.
Dernière question, docteur Alain Perret. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'inquiétude grandit autour des enfants. Est-ce qu'ils sont menacés par cette épidémie de Covid-19 ?
Oui, la grande difficulté, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vaccination, enfin, il n'y a pas de vaccin qui a été mis, qui montrait, enfin, en tout cas, qui a eu l'autorisation de mise sur le marché pour les moins de 12 ans. Donc, on a une population qui est non vaccinée. Donc, on sait que le vaccin ne limite pas, n'arrête pas complètement la transmission, mais la diminue dans une proportion de 1 pour 10. Hein, donc ça freine considérablement la transmission du virus, même si ça n'arrête pas. Donc aujourd'hui, va se poser la problématique du grand brassage de population qui est une école, quel que soit l'âge. Et voilà, on peut s'interroger. Alors j'ai pas lu avec détail, parce que c'est pas mon domaine, la pédiatrie et la scolarité, ce qui a été mis en place par l'éducation nationale, mais voilà, il faut être certain que les mesures les plus strictes soient prises pour limiter au maximum la transmission du virus par l'intermédiaire des enfants.
Eh bien, merci, docteur Alain Perret, de nous avoir accordé de votre temps sur Grand Sud FM. Je rappelle que vous êtes chef des urgences au centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement. Et on vient de faire ensemble le point sur la situation du Covid-19 au centre hospitalier de Narbonne. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.